jusqu'à 19h. Cap Sport. De la fonte et des voiles, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui dans Cap Sport. Deux thématiques différentes mais liées par des bras d'acier. Des bras d'acier, il en faut pour être performant en haltérophilie. Il en faut aussi pour manœuvrer les voiles d'un bateau. Installez-vous confortablement, on est parti pour un beau voyage d'une demi-heure. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Sport. Alors avant de prendre le large en direction des îles Canaries en Espagne pour y retrouver Yann Burkhalter, navigateur de la Neuville engagé en ce moment sur la Mini Transat, on va faire un peu d'exercice avec vous Mathieu Schaffner, bonsoir.
Oui, bonsoir Yannick. Place à l'haltérophilie, en effet, c'est l'unique sport de force inscrit au programme des Jeux Olympiques. Ça fait même un bail qu'il y figure depuis 1896. Alors l'haltérophilie, c'est une discipline particulièrement répandue en Grèce, en Arménie, en Turquie, en Bulgarie aussi, et dans la région bien sûr. Les championnats romands vont se tenir demain dans le canton de Neuchâtel, à Chézard très exactement. Et puis la semaine prochaine, c'est le Challenge 210 qui va se dérouler à Tramelan vendredi et samedi. Un tournoi international où les mouvements de l'arraché et de l'épaulé jeté seront rois.
Et pour partir à la découverte de ce sport, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Chan. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes responsable technique des championnats romands, vous faites aussi partie de la Fédération européenne d'haltérophilie, vous en êtes le vérificateur des comptes. Michel Chan, en Suisse, on dénombre 240 licenciés pour votre sport. Alors c'est évidemment extrêmement peu. Finalement, qu'est-ce qui cloche ?
Alors écoutez, c'est extrêmement peu, mais finalement il y a eu une grande augmentation. On a eu différentes concurrences à une certaine époque par rapport au powerlifting, qui était dû à l'abandon du développé. Le développé, c'était une discipline, il y avait trois disciplines jusqu'en 1972, et suite à ça, c'était supprimé, suite aux Jeux Olympiques de Munich. Et de par cette action, on a perdu régulièrement après des membres pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mais maintenant ça remonte vraiment d'une manière spectaculaire, je dirais même, par rapport essentiellement aussi au CrossFit, où il y a bien des gens qui, par rapport à ce sport, découvrent l'haltérophilie.
Si on met le focus sur l'arc jurassien, le tableau n'est pas des plus brillants. Hein. Dans le Jura, il n'y a plus de club après l'arrêt de Buis il y a une trentaine d'années. Sur Neuchâtel, c'était un sport bien développé, mais plutôt dans les années 70. Et puis finalement, il n'y a que le Jura bernois qui s'en tire pas trop mal avec Tramelan et Moutier, deux clubs qui restent sur le devant de la scène au niveau suisse. C'est un peu le constat qu'on doit dresser, Michel Chan.
Alors écoutez, bon, Tramelan, effectivement, Moutier, en ce moment, on a aussi un petit peu à la peine. C'est des aléas du sport, il y a beaucoup de concurrence maintenant, donc tout d'un coup vous avez beaucoup de jeunes, 2-3 ans après vous avez nettement moins. C'est des fluctuations qui existent dans notre sport, mais c'est peut-être plus marqué dans notre sport que dans d'autres, peut-être le football ou le hockey, mais c'est des problèmes inhérents à chaque sport par rapport à la mode, des effets de mode où les gens veulent aller dans un ou dans un autre. Après, effectivement, au niveau Neuchâtel, c'était un canton juste dans les années 70, comme on l'a dit, début des années 70, c'était le canton le plus prolifique en haltérophile de Suisse. Ensuite de ça, effectivement, il y a un creux de vague qui la vague s'est plutôt déplacée dans le Jura bernois avec effectivement Tramelan, Moutier, Buis. Et maintenant, le creux de vague, il est parti de Buis. Moutier a un petit peu plus de peine maintenant. Tramelan, ça va encore. Et ça se redéplace maintenant sur Neuchâtel et Jérémy en bas. Donc, c'est-à-dire Neuchâtel, Crécier, il y a maintenant des crossfit du littoral. Il y a de l'activité très intéressante.
Mais quand même, Michel Chan, est-ce que l'haltérophilie souffre pas un peu de son étiquette de sport un peu vieillot, une discipline de gros bras ? Est-ce que cette étiquette, elle vous colle pas encore un peu à la peau ?
Alors ça, c'est clair que d'une part, c'est beaucoup issu effectivement aussi des médias, parce que pourquoi est-ce que l'haltérophilie se porte bien dans l'arc jurassien globalement ? C'est parce qu'on est toujours finalement été bien soutenu par les médias. Hein, je parle d'Impartial, du journal du Jura, du quotidien jurassien, qu'on souvent fait des très bonnes couvertures à notre sport, et d'où on avait effectivement régulièrement du monde. Après, par rapport à cette image que vous dites, effectivement, il y a des médias, on n'en parle pas, ou peu, et puis quand on en parle, vous prenez les journaux comme tel le matin, ils disent pas seulement que c'est le cas de dopage, mais quand vous avez un athlète qui est le meilleur athlète suisse qui vient de la région, on n'en parle même pas. Alors c'est ça un petit peu le problème.
Et on en parle aussi évidemment à la radio ce soir, Michel Chan. On peut parler également de l'haltérophilie parce que finalement on parle de discipline de gros bras, mais c'est pas forcément vrai, ce n'est pas qu'une question de force.
Alors ça c'est pour le en guillemets le vieux cliché.
Oui, c'est ça.
C'est le vieux cliché des hommes de cirque dans le temps, parce qu'à une époque sous l'époque Rigoulot qui datait des années 1920 etc. C'était effectivement des bêtes de cirque qui avaient une vingtaine de disciplines. Ça allait même jusqu'à plier une barre, déchirer un bout de téléphone etc. C'était des duels de 2 ou 4 athlètes et puis enfin des compétitions de 2 à 4 athlètes et puis il y avait tout un tas de disciplines diverses pour montrer sa force, d'où on parlait effectivement autour de gros bras. De par l'évolution, l'haltérophilie est une sport où il y a à un moment donné toutes ces disciplines, après plus que 3, et c'est un sport qui est devenu très technique. Et puis automatiquement, quand c'est technique, si vous n'êtes pas dans le milieu, vous ne comprenez pas bien. Donc si vous ne comprenez pas, si vous n'êtes pas quelqu'un qui, de par les médias, peut vous faire connaître, et ben vous tombez un petit peu dans l'ombre. C'est ce qui arrive avec notre sport. D'ailleurs, d'où on voit en Turquie, dans certains pays, où c'est un sport qui est très répandu, quoi.
Michel Chan, vous œuvrez aussi dans l'initiation des plus jeunes. Hein. Alors, comment on attire finalement en 2017 un enfant, un ado dans ce sport-là? Comment est-ce qu'on lutte face à la concurrence, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du football ou bien du hockey sur glace?
Ben, c'est d'aller en contact avec les gens. Il y a plusieurs types d'exercices. Ils passent pour vacances ou des fois on récupère des jeunes. À Lausanne, ils ont la semaine olympique. C'est d'aller dans des compétitions avec des jeunes un petit peu en direction du public. C'est de faire de la propagande régulièrement. C'est d'aller dans les écoles. Après, c'est toujours la même chose. Il y a des enseignants qui sont ouverts et d'autres qui ne le sont pas. Alors, de mon temps, j'avais des enseignants qui disaient qu'il ne fallait surtout pas faire ce sport. Voilà. Et puis, en fait, quand vous voyez qu'au hockey sur glace, on a eu 3 paraplégiques en 15 ans, entre la Liga et la 4e Ligue. Donc, je pense que ce n'est pas plus dangereux que le hockey sur glace.
Mais le hockey sur glace, le football, c'est vraiment clairement des sports qui vous font concurrence, qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues pour attirer des plus jeunes?
Alors, je dirais pas concurrence. On peut déjà pas comparer parce que le football et le hockey, c'est des sports jeux. Alors que nous, nous sommes un sport athlétique. S'il y a une concurrence, elle serait dans l'athlétisme et puis dans la gymnastique. Alors, c'est vrai que la gymnastique et l'athlétisme bénéficient d'une meilleure couverture médiatique que nous.
Hein, si on prend le cas de la télévision. Ça pourrait être des compléments, donc, à bien vous comprendre. Le football, le hockey sur glace pourrait être des compléments.
Ah mais tout à fait d'ailleurs, aujourd'hui il y a bien des sportifs de sport jeu, regardez Ronaldo, la musculature qu'il a, il a pas seulement tapé dans une balle, hein. Donc il fait de la musculation et souvent certains font des sports tels que l'haltérophilie parce que c'est un sport explosif, c'est de la force explosive, c'est non pas seulement pour développer le muscle, pour qu'il prenne du volume et puis que ça soit présentable sur la plage quoi.
Et puis l'argument de sport olympique, l'image de l'olympisme, la perspective de participer un jour au JO, est-ce que ça permet de brancher des jeunes en Suisse?
Voilà, je sais pas, c'est tellement... Allez, c'est comme si vous dites maintenant, vous allez faire la pâte de l'Everest, hein, j'entends, c'est beaucoup de candidats peu d'élus, quoi, j'entends. C'est très difficile, là, aux Olympiques, hein, je veux dire, il faut un staff technique, un staff médical au niveau soins, je parle pas forcément doping, hein, mais pour arriver à très haut niveau, quoi, j'entends. Il faut un suivi énorme. Et puis ça, nous, en Suisse, on en a pas les moyens. Donc, si on a eu le cas de Michel Broyer qui a fait les Jeux Olympiques en 76 et 80 et Daniel Chan, mon frère en l'occurrence, en 84, c'était une autre méthode de sélection. C'était maintenant, nous, on est limité parce qu'il y a tellement de nouveaux sports au niveau olympique que le CIO a limité par discipline un nombre de participants. Donc nous, on est, je crois, sur au maximum à 200 athlètes. Alors voyez, on est dans, je crois, la 5e fédération au monde la plus représentée. On a près de 170 pays membres et puis on a seulement droit à 200 athlètes participants. Vous voyez, ça fait à peine plus d'un par pays.
Et puis, est-ce que des événements comme, on en parlait tout à l'heure, le Challenge 210 qui va se tenir vendredi et samedi prochain du côté de Tramelant avec des athlètes français, italiens, espagnols, allemands, autrichiens, hongrois, est-ce que finalement ça aussi ça offre une belle vitrine à votre sport auprès de la jeunesse?
Ah ben écoutez, totalement, si le club de Tramelant se porte bien, c'est certainement aussi grâce à Challenge 210 qui en est à sa 47e édition. C'est une compétition qu'on a réussi à maintenir, qu'on a toujours, non seulement réussi à maintenir, mais qu'on a toujours tenté de développer. Et puis finalement, maintenant, on a des nouvelles infrastructures depuis quelques années, qu'on fait ça à la salle de la Marelle. Et ça a permis de faire ça a créé un levier où on a passé d'une moyenne de 90 à 100 inscrits. On est maintenant, ces dernières années, entre 160 et cette année 185 inscrits. Voilà, donc on est dans un environnement confortable qui nous permet de développer et automatiquement, comme vous le dites vous-même, c'est une belle vitrine. On a régulièrement des gars qui participent, qui par la suite sont champions d'Europe, ou des gars qui souhaitaient champions d'Europe qui ont participé après à nos challenges. Si on prenait vos Français, il y a deux Français qui souhaitaient champions d'Europe cette année, qui ont eu gagné le Challenge 110 ces dernières années. King et Matam, et puis Anaïs Michel, par exemple.
Michel Chen, il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé avec vous, c'est le côté féminin de l'haltérophilie. Des compétitions existent pour les dames depuis bientôt 40 ans. Elles prennent part également aux Jeux Olympiques depuis Sydney en 2000. Alors ça a donné l'envie à Noémie de passer un coup de fil à Stéphane Lauper, le responsable justement du Challenge 210, pour lui poser cette question. Est-ce que l'haltérophilie reste aujourd'hui, malgré tout, un sport essentiellement masculin ?
Si on regarde au niveau suisse, l'haltérophilie féminin se développe de plus en plus. On a une bonne progression. Si je prends cette année, on a 68 athlètes féminines sur 237 licenciés. Ça fait un bon quart d'athlètes féminins au niveau suisse. Et ça montre que les femmes s'intéressent de plus en plus à notre sport. Je dirais que les femmes arrivent sur l'haltérophilie ou en Suisse par le biais du crossfit, qui est un sport maintenant en pleine expansion. Et pour pratiquer le crossfit, il faut pratiquer aussi l'haltérophilie. Donc il y a les deux mouvements, l'arraché et l'épaule et jeté. Et c'est par ce biais-là que les athlètes féminins sont venus maintenant sur la plateforme de l'haltérophile helvétique.
Et puis, vous parliez donc au niveau suisse qu'il y avait un quart à peu près des licenciés qui étaient des femmes. Est-ce que c'est aussi une proportion qu'on retrouve dans la région ?
Dans la région, Tramelan possède 7 filles dans son effectif. Et c'est le seul club qui possède des féminines dans la région, je dirais Jura Bernois. Après, on trouve des athlètes féminins du côté de Chaux-de-Fonds. On a une ou deux athlètes à Neuchâtel ou à Crécy, où on a aussi quelques athlètes. Faisant le bassin féminin, je dirais, c'est à Tramelan pour l'instant.
Il y a quand même encore une espèce d'image un peu masculine de ce sport qu'il faudrait dépasser pour qu'il y ait encore plus de femmes.
On y travaille, on essaye par le biais de démonstrations, de présence dans les villages, pour essayer de promouvoir notre sport, non seulement auprès des jeunes ou des hommes, mais aussi des femmes. On espère que dans quelques années, on ait aussi plus de femmes, je dirais, athlètes, haltérophiles purs et non pas crossfit, plus haltérophilie dans les clubs de la région.
Michel Chan, on vient d'entendre le constat de Stéphane Lauper. Un quart des haltérophiles licenciés en Suisse sont des femmes. Clairement, c'est l'avenir de votre sport, le côté féminin ?
C'est sûr, c'est l'avenir de nos sports, effectivement. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, que la femme est l'avenir de l'homme. Finalement, on le retrouve au niveau de notre sport. Et puis, c'est vrai que ce qu'il dit là, Stéphane Lauper, c'est exactement ça. Simplement, il faut du temps. Hein. Vous prenez le cas de la politique. Hein. Les femmes ont le droit de voter en 71. On a toujours la peine d'avoir deux, trois conseils fédéraux, quoi, la moitié. Donc, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il faut du temps, que elles osent venir, et puis que, on veut pas dire qu'elles décomplexent, mais voilà, que, qu'elles puissent, prendre part aux entraînements et aux compétitions, d'une manière décontractée, et puis après, chercher à s'améliorer. Mais effectivement, alors, très étonnamment, il y en a de plus en plus, et puis je serais pas étonné que, pas dire 10 ans, mais dans 15, 20 ans, on est un potentiel plus grand d'un licencié féminine que masculine.
Et puis l'autre aspect de ce coup de fil à Stéphane Lauper, c'est la cohabitation, si on peut le dire ainsi, avec le crossfit, hein, cette nouvelle discipline en plein essor en Europe. Est-ce que c'est un filon à exploiter pour vous, pour l'haltérophilie, ou bien au contraire, vous le voyez comme une concurrence pour votre sport ?
Alors personnellement, je pense que c'est positif et puis qu'il faut effectivement s'intéresser et puis être travailler ensemble. Mais il est vrai que certains dirigeants haltérophiles, on veut dire des puristes, regardent ça un petit peu aller en diagonale, quoi. J'entends, c'est un petit peu, parce qu'en fait, ils ont un autre état d'esprit, c'est une autre mentalité que personnellement j'approuve, enfin j'apprécie bien. Alors que les haltérophiles, on a un peu un esprit plus pointu, plus technique, alors plus perfectionniste. Alors dès qu'il y a une petite faute, je veux pas dire qu'on regarde au laser un mouvement, mais dès qu'il y a un moindre petit truc, sur les arbitres, ça sera annulé. Alors que dans le crossfit, on récompense l'effort globalement. Alors chez nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir des essais levés, des charges levées qui sont annulées pour des fautes que le commun des mortels ne voit pas forcément, quoi.
Michel Tchan, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Cap Sport. Vous êtes donc le responsable technique des championnats romands d'haltérophilie. Ils se tiennent ce samedi dans le canton de Neuchâtel, à Chézard plus précisément. Belle compétition à vous et un bon week-end.
Oui, merci. Donc, je rappelle juste que ça commence dès 11h et que le plateau où il y a les cracks, c'est à 16h15.
Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup.
Merci infiniment à vous. Bonne soirée.
Et puis on rappelle aussi que vendredi et samedi prochain, cette fois-ci, c'est le Challenge 210 qui va se tenir à Tramelan. Record de participation pour cette 47e édition avec 191 athlètes inscrits, des Suisses mais aussi des Français, des Hongrois, des Espagnols, des Tchèques, des Allemands, des Autrichiens et j'en passe. Un plateau relevé à découvrir dans la région. L'haltérophilie qui s'offre donc deux week-ends de fête dans l'arc jurassien.
Cap Sport. Et direction l'Atlantique, à présent, on hisse la grand-voile et on met le cap sur les îles Canaries, Las Palmas plus précisément. C'est là que les navigateurs de la Mini Transat ont fait escale après leur première étape de course. Et parmi eux se trouve Yann Burkhalter. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Yann Burkhalter, vous êtes navigateur originaire de la Neuville. On vient tout de suite vers vous, mais avant, présentation de cette épreuve avec Mathieu.
Oui, la Mini Transat, c'est une course transatlantique à la voile, en solitaire et sans assistance. Elle se fait en deux étapes, chaque année impaire, depuis 1977. On vit la 21e édition, elle a été lancée le 1er octobre. 81 voiliers étaient au départ de La Rochelle, ça fait un sacré pactole là en France. Direction Las Palmas. Et puis le 1er novembre, eh bien, ce sera le départ de la deuxième étape depuis la cité espagnole. Cap cette fois-ci sur Le Marin, c'est en Martinique.
Yann Burkhalter, donc on l'a compris, vous êtes entre ces deux étapes de cette Mini Transat, stationnée donc à Las Palmas. La première partie de course s'est, je crois, très bien passée. Racontez-nous peut-être comment c'était.
Oui, alors cette première étape c'est très très bien passée. Je fais un classement de 11e sur les plus de 50 bateaux de série, donc qui a une très très bonne performance avec... En sachant que j'ai quand même un bateau qui est un petit peu plus vieux que les autres, donc c'est une très bonne performance. Ça a été un petit peu plus long qu'on imaginait. On a mis un peu plus de 10 jours, alors que d'habitude, c'est plutôt une petite semaine pour traverser à cause de vents un peu capricieux.
Une 11e place qui vous a surpris ?
Ça m'a pas surpris dans le sens où j'ai quand même des nouvelles de classement tout au long de la course. Mais ça a été, oui, une très très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à un autant bon résultat. Mais j'ai vraiment, vraiment tout donné pendant cette épreuve. C'était des conditions météo qui me correspondaient bien. Donc, ils m'ont permis de faire cette belle première étape.
Allez, si on se montre un peu gourmand, qu'est-ce qu'il vous a manqué pour faire encore mieux, pour aller titiller les meilleurs? Parce que finalement, vous terminez qu'à 6 heures du vainqueur de cette première étape. Hein, sur 10 jours de course, ce n'est pas beaucoup.
Non, c'est vraiment rien. Là, on est tous arrivés très, très serrés, le premier paquet. Ce qui m'a manqué, c'est, je pense, déjà un bateau un petit peu plus performant. Après, la possibilité de faire un peu plus d'entraînement. C'est quand même un projet amateur où j'ai continué à travailler à côté. Donc, j'ai pas pu m'y consacrer à 100%, contrairement à ceux qui gagnent l'étape ou qui sont devant moi, qui, eux, ont des projets à 100% sur 2 ans, donc je pense que c'est un peu du temps, un bateau un peu plus performant, et ça m'aurait permis de me battre avec les premiers.
Yann Burkhalter, vous venez de passer 10 jours seul en mer, comment on se sent seul sur son voilier ?
Ah, moi j'adore ça, c'est pour ça que je fais de la course au large, c'est justement pour être tout seul, confronté à soi-même, on doit vraiment gérer toutes les situations par nous-mêmes, et c'est ça qui me plaît dans ce sport et dans la façon de faire de la course au large en solitaire.
Et puis c'est long, 10 jours seul en mer, ou au contraire, il y a finalement tellement de choses à faire qu'on ne voit pas le temps passer ?
Non, alors là, c'est vraiment passé très très vite. Et au contraire, à la fin des 10 jours, je commençais vraiment à me dire que j'avais bien pris le rythme et puis que ça pouvait continuer sans autre. Quoi. C'est vraiment une durée qui était assez courte au final. On a juste le temps de s'acclimater, de prendre les bons réflexes, de se sentir à l'aise sur le bateau et c'était déjà l'arrivée. Donc la deuxième étape, là, ça va être théoriquement deux fois plus long, mais ça me fait pas plus peur que ça.
Est-ce qu'on arrive à dormir quand même? C'est une question qu'on se pose souvent quand on est seul sur son voilier au milieu de l'Atlantique. On peut prendre le temps de dormir?
Alors on prend le temps, mais c'est une toute petite période. On ne dort pas plus que 20 minutes à la fois, mais plusieurs fois dans la journée, ce qui permet de dormir entre, ça dépend un peu des journées, mais entre 3 et 4 heures par jour, par période de 20 minutes. On ne se permet pas plus longtemps parce qu'après, on tombe dans le sommeil profond et c'est beaucoup plus dur à se réveiller. Et puis, il peut arriver aussi des collisions avec des bateaux ou des choses comme ça qu'on doit quand même surveiller régulièrement. Donc, c'est pour ça que la limite de 20 minutes, tout le monde l'applique à peu près pendant ce genre de traversée.
Yann Burkhalter, si on prend un petit peu de recul, c'est votre première participation à cette mini-transat, une épreuve qui a tout de même révélé des marins de renom, Bernard Stamm, Loïc Perron, Hélène MacArthur. C'est ça un peu le but, votre but, se faire repérer et lancer une grande carrière?
Alors, c'est pas un but vraiment précis dans ce sens-là. C'est clair que c'est le tremplin pour faire de plus grandes épreuves après, pour se révéler dans la course au large. Là, mon premier objectif est de finir ce projet comme il faut, de le mener à bien. Et puis, au fil des prochaines semaines, ça va mûrir dans ma tête et je saurai exactement ce que je veux faire pour la suite. Mais là, le premier objectif est de finir cette course dans les meilleures conditions et de prendre de l'expérience pendant cette course.
Bon, alors prenons le défi. On va dire que tout s'est très bien passé pour vous et que vous avez envie de vous lancer. Concrètement, pour réussir en voile, il faut taper dans l'œil d'un gros sponsor. C'est ça, finalement, la clé pour évoluer dans votre sport.
Oui, c'est ça. Malheureusement, sans argent, on peut pas faire ce genre de projet. Donc, il faut trouver les sponsors, les gens qui nous soutiennent dans ce projet. Alors malheureusement, oui, il faut un peu d'argent, il faut arriver à se faire remarquer. Et cette course, elle permet aussi de faire nos preuves.
Et puis quand on parle de navigation, on pense à des épreuves mythiques, comme la route du Rhum, le Vendée Globe. Pour vous, ce sont des rêves ou bien ce sont clairement des objectifs pour la suite?
Pour l'instant, ça reste des rêves parce que déjà mener un projet de mini-transat, c'est énormément de travail. Là, on s'est impliqué pendant 2 ans avec des recherches de sponsors. Ça a été vraiment beaucoup de travail. Donc, pour l'instant, ce genre de grande course reste encore un rêve. Mais après, on ne sait pas comment ça va se passer après la transat. Est-ce que des choses vont se débloquer et permettre à ces rêves de devenir réalité? Ça, on verra. C'est encore un peu tôt pour le dire, là.
Bon, en tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone de Las Palmas, cette étape donc de la Mini Transat. Et puis, dès le 1er novembre, direction Le Marin en Martinique. On vous souhaite bon vent et tout bon pour cette épreuve.
Merci beaucoup à vous de m'avoir permis de m'exprimer. Merci bien.
C'est ainsi qu'on va ranger la grande voile pour aujourd'hui. Retour au port pour Cap Sport, votre magazine sportif qui revient vendredi prochain, même heure, même endroit. D'ici là, vous retrouvez ce numéro sur notre site internet. Très beau week-end à vous tous.
Au revoir.